and Chill, un podcast du Conseil international des musées. Aujourd'hui, nous avons invité Madame Ingrid Brochard, fondatrice du MUMO, le musée mobile, un musée itinérant d'art moderne et d'art contemporain. Bonjour Madame Brochard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter brièvement peut-être votre parcours et ce qui a inspiré la création du MUMO ?
Alors, moi, j'ai un parcours plutôt entrepreneur. À la base, j'ai monté des sociétés de cosmétiques d'import-export en Asie. Et je ne pense pas que j'avais vocation à monter un musée ou même à travailler dans l'art. Puisque quand j'étais petite, alors j'étais très heureuse, hein, mais dans ma famille, on nous a plutôt poussé dans le sport, les études, les voyages. Mais il n'y avait pas ce pan culturel. C'est en montant à Paris, quand j'ai monté ma boîte très jeune, à 19 ans, donc d'import-export avec l'Asie. Donc je suis provinciale. En montant à Paris, voilà, j'ai découvert à Saint-Germain ce qu'était une galerie. Je pensais que c'était un magasin. J'ai vu du monde, je suis rentrée. Et c'était une exposition de l'artiste français Gérard Schlosser, donc de la figuration narrative. J'ai regardé les tableaux, j'étais un peu intimidée. Je savais pas trop, en fait, quels étaient les codes. Et en fait, l'artiste et sa femme m'ont parlé, parce que vous voyez, j'observais et j'avais un petit sourire parce que c'était des tableaux hyper réalistes, donc je savais pas si c'était de la photo, comment c'était fait. Et en fait, on a discuté et on s'est plus jamais quitté. Ils m'ont invité donc à aller dans leur atelier dans le 11e. Et c'est vraiment cette rencontre qui m'a initiée aux arts. C'est-à-dire que non seulement ils m'ont emmenée dans les musées, mais ils m'ont fait lire Beckett, ils m'ont emmenée à l'opéra. Et en fait, à partir de ce moment-là, ma vision au monde a changé. C'est vrai que j'étais très formatée, business. Et d'ailleurs, quand j'allais en Chine, au lieu de passer 100% de mon temps dans les usines, je commençais à aller voir les artistes dans leurs ateliers. Donc voilà, à la base, en fait, c'est plutôt une rencontre et une éducation qui n'était pas forcément en lien avec les arts et qui, en fait, peut le devenir.
Super. Et le MUMO, c'est un concept assez fascinant.
Alors, alors oui, suite à ça, j'ai commencé à entreprendre dans l'art. J'ai monté un magazine d'art contemporain qui s'appelait BC, Bicontemporary. Donc, c'était un trimestriel, un bilingue, qui présentait les galeries, la jeune scène artistique émergente. Et je produisais aussi des émissions télé sur Direct 8. À chaque fois, c'était une carte postale dans des pays différents pour présenter une foire, des collectionneurs, voilà, pour vraiment l'art comme un lifestyle. Et j'ai rencontré énormément d'artistes. Donc, ça a été super. Hein. Une artiste notamment qui, pour moi, était très importante, c'est Louise Bourgeois. J'ai eu la chance de rencontrer à New York et j'ai vraiment eu... beaucoup d'émotions devant ses œuvres. Donc, pour dire aussi que l'art, c'est un formidable outil d'éveil, d'échange, de partage, mais aussi de réflexion sur soi-même ou sur les autres, ou sur la vie. Et donc, après ce magazine, puisque bon, j'ai quand même le sens des affaires et je perdais de l'argent, hein. C'est difficile de monter un magazine, d'avoir des annonceurs, c'était en 2005 en plus. J'ai vendu ma société de cosmétiques, j'ai arrêté le magazine et les émissions télé et j'ai fait un voyage en Antarctique. Et c'était un vrai voyage, puisque vous êtes en contact qu'avec la nature, pas de civilisation, pas de voiture, pas de building. Et donc, ça m'a permis un temps de réflexion. Et en fait, je me suis dit, voilà, j'aime l'art, je vois le pouvoir de l'art, ça peut faire bouger des lignes. J'ai pas eu la chance, en fait, d'être en contact avec des œuvres petites. Mais j'ai beaucoup habité dans des zones rurales et je me suis souvenue du bibliobus. Donc, vous voyez où je vais en venir. Et donc, le bibliobus, quand on n'a pas une bibliothèque près de chez soi, il vous apporte des livres et c'est aussi une ouverture sur le monde. Et en fait, pendant ce voyage en Antarctique, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose avec des œuvres d'art. Donc, à la base, c'est un cheminement assez personnel, ce MUMO. C'est de se dire que j'avais envie de mettre les enfants notamment d'école primaire, parce que c'est l'âge où on nous apprend à lire, à compter, et c'est tout aussi important donc, de nous apprendre à se connecter à nos émotions, à rêver, à s'émerveiller. Et donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un bibliobus qui transporterait des œuvres d'art hein, et qui irait dans les campagnes, les banlieues, là où il n'y a pas forcément accès à des centres d'art ou même quand il y a accès, en fait. Il n'y a pas que, en fait, la barrière psychosociale, psychologique, il y a aussi la barrière géographique. Voilà. Et justement aussi psychologique, parce que c'est pas parce qu'on a un musée près de chez soi qu'on va pousser la porte. C'est très dur, le seuil d'un musée, c'est impressionnant. Moi, je vois le musée mobile, tout est inversé. Donc, c'est un camion qui transporte des œuvres d'art et qui se déploie en banlieue, sur les places de mairie. Donc, en fait, on vient au contact des gens. Et en fait, beaucoup de gens nous disent, mais nous, on ne va pas au musée parce que, bon, c'est cher, parce que aussi, on n'a pas les codes, on ne sait pas comment expliquer les œuvres à nos enfants. Donc là, c'est les enfants qui amènent les parents au musée. Voilà, au MUMO, tout est inversé.
C'est génial. Oui, donc concrètement, vous avez construit ce camion avec la designeuse Nathalie Crassé. Voilà, comment ça s'est construit? Comment est-ce que vous avez discuté avec elle, justement, pour que... à la fois les conditions de conservation des œuvres soient là, mais en même temps voilà, qu'il y ait cette idée de mobilité et surtout d'accessibilité à tous les publics. Il y a vraiment un challenge, j'ai l'impression.
Oui, complètement. Alors, le premier camion, en fait, il a été construit par un architecte américain, Adam Calkin. C'était un container qui se déployait et à l'intérieur, c'était des artistes qui avaient créé des œuvres, pas les moindres. Hein. Il y avait James Turrell, Paul McCarthy, Daniel Buren... Okay. Jim Lambie, Pierre Huyck, bon, beaucoup d'artistes qui s'étaient fédérés autour du projet parce que justement, ce qui les intéressait, c'était d'aller à la rencontre de publics différents que les publics qu'ils rencontrent dans les galeries ou les musées. Ce projet a duré 5 ans. Ça a été une vraie expérimentation. Et en fait, on a très vite été repérés par le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale et par aussi des collections publiques, notamment le CNAP, qui venaient voir le MUMO, avaient envie d'une structure comme ça, mobile, pour faire circuler leur collection. Notre limite, c'était justement la conservation et la sécurité des œuvres. Donc, on a fait, en fait, évoluer le projet. On a d'abord gagné un concours. On a été lauréat de la France s'engage, qui avait été initié par le président de la République, François Hollande, qui est vraiment un super projet, qui existe toujours, hein, la fondation de la France s'engage, dont il est président aujourd'hui. Et en fait, ils nous ont donné les moyens financiers de construire un nouveau camion aux normes, donc qui respecterait les normes muséales de conservation et de sécurité. On a fait appel à Nathalie Crassé, parce que d'abord c'était une designer qu'on aimait bien, et surtout parce qu'elle a cette capacité de faire un projet en concertant les personnes concernées. On l'avait repéré en fait parce qu'elle avait fait une école à Trébédan avec les nouveaux commanditaires. Et en fait, voilà, on voulait pas en fait d'un designer qui se fasse plaisir. Il y a une vraie dimension sociale avec le musée mobile. Et en fait, elle a observé pendant 3 mois le MUMO, l'ancien, et elle s'est aperçue que en fait, il y avait besoin d'une vie aussi à l'extérieur du camion. Donc, elle a construit sur les parois du camion, quand il se déploie, il y a des tables qui descendent et ça permet aux élèves de faire des ateliers de pratique artistique. Donc, elle a vraiment amélioré ce camion et elle a donné aussi une dimension très chaleureuse à l'intérieur. En fait, vous avez toute une ossature en bois. Donc, on n'est pas du tout dans un white cube et c'est important pour les gens, pour un premier contact avec l'art, d'avoir aussi cette proximité avec les œuvres. Il y a toute une ossature qui permet de suspendre les œuvres directement. Donc, vraiment un podium où on peut s'asseoir ou alors aussi poser des sculptures. Elle a vraiment réussi à... Alors, nous, on voulait la rencontre de l'œuvre avec les publics. Et elle a donné une dimension sociale au projet de partage et de vie autour du camion.
Voilà. C'est devenu un lieu de vie, en plus d'un lieu de création. Et,
exactement. Et voilà, en fait, on est vraiment dans le partage du sensible et du vivre ensemble. Mmh. Quand on arrive dans un quartier, en fait, c'est tout le quartier qui est invité à venir voir l'exposition. C'est les commerçants qui exposent parfois les dessins, les productions des enfants dans les vitrines. Voilà, il y a cette dimension sociale qui est importante.
Et d'ailleurs, comment vous choisissez ou comment, enfin, voilà, à quel endroit se déplace le musée mobile? Comment est-ce que vous choisissez? Est-ce que c'est des partenariats? Est-ce qu'on vient vous chercher? Est-ce que c'est vous qui proposez? Comment ça se passe?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, le projet, il a évolué en 14 ans. Alors, au début, on travaillait beaucoup avec ATD Quart Monde et l'UNESCO. Donc, des écoles qui étaient en demande de programmes culturels. Et au fur et à mesure, en fait, quand on a commencé à recevoir des subventions publiques, donc on se structure beaucoup plus comme une institution. Donc, on a des copiles. Autour de la table, on met des interlocuteurs très différents, aussi bien des personnes du monde de la culture, de l'éducation nationale, du champ social, de la ville. Voilà, donc il y a aussi un enjeu politique avec la venue du MIMO. Donc en fait, c'est tous ensemble avec les DRAC, donc le ministère en région, qu'on décide de l'itinérance, puisque en fait, ils connaissent très bien leur territoire, donc on fait appel à eux, on les mobilise et ensemble on trace l'itinérance pour aller justement dans les QPV, les quartiers politiques de la ville, pour aller dans les zones rurales, les villages de moins de 2000 habitants, pour toucher aussi, aujourd'hui on a des QPV en zone rurale. Voilà, donc on essaie d'aller au plus près de ces publics les plus éloignés de la culture. On travaille beaucoup avec le champ associatif aussi. On fait des visites avec des enfants de réfugiés. On fait des visites aussi avec des IME, donc des enfants qui sont dans des instituts médicaux éducatifs, avec des EHPAD. Voilà, en fait, tous nos publics s'élargissent au fur et à mesure des kilomètres et des rencontres.
Génial. Et du coup, quand vous allez dans un territoire, j'imagine que vous travaillez aussi avec les institutions culturelles locales, les centres d'art, les FRAC, je sais.
Alors oui, complètement. Ouais. Alors en fait, aujourd'hui, on a deux camions. On a un camion qui fait circuler les œuvres des FRAC. Donc à chaque fois qu'on change d'exposition, on change de région. On travaille étroitement avec les FRAC, avec les DRAC, mais aussi avec les musées qu'il y a sur le territoire, et on essaie de faire des passerelles. Parfois avec le musée de la porcelaine, de la BD. Aujourd'hui, on va inaugurer avec la région Nouvelle-Aquitaine une exposition, le dessin dans tous ses états, et donc le MUMO va transporter des œuvres d'art et aussi des BD, en collaboration avec la CIDBI. Voilà. Okay. C'est aussi au fur et à mesure des rencontres et de la richesse des territoires qu'on vient alimenter le MUMO.
D'accord, très bien. Je suis curieuse aussi de... Est-ce qu'il y a un espace de création pour les artistes? Tout ça, c'était plutôt au début du projet. Et maintenant, c'est plutôt des collections qui viennent... qui sont peut-être prêtées par les musées. Comment
oui,
ça fonctionne?
Oui, alors le projet, il a évolué. Vrai que ça, c'est un peu ma petite frustration, puisqu'aujourd'hui, je suis là plus pour pérenniser le MUMO, donc, c'est-à-dire lever des fonds, chercher des financements, ce qui est très important. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais contacté tous les différents artistes pour créer des œuvres in situ. Et en fait, on pouvait circuler comme ça avec la même exposition pendant 4 ans, chose qu'on a faite. Parce qu'en fait, à chaque fois, on avait des publics différents. On a même voyagé, on est allé en Afrique, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme ça s'est institutionnalisé, on est plus rentré dans les politiques publiques et on en est ravis. On est dans le parcours EAC. On fait circuler les œuvres des collections nationales. Donc, il n'y a pas de production d'œuvres. Il y a plus un commissariat d'exposition qui est fait par soit le conservateur du musée, puisqu'on a un camion qui fait circuler exclusivement la collection du Centre Pompidou, soit par le chargé des publics du FRAC. Donc voilà, donc c'est vrai que nous, au niveau de la curation ou de la création artistique, on a perdu ce rôle, mais on est tout aussi contents, puisqu'aujourd'hui, notre mission, c'est de faire circuler les œuvres des collections nationales.
Super. Vous parliez justement de la collaboration avec le Centre Pompidou. Voilà, par exemple, comment ça se passe? Est-ce que ça va peut-être évoluer avec voilà, les nouveaux projets du Centre Pompidou? Peut-être que c'est aussi le bon moment, oui. Étant donné qu'ils vont fermer leurs portes pour des travaux pendant quelques années.
Oui.
Voilà, comment ça se passe dans ces cas-là?
Alors, c'est assez intéressant parce que le Centre Pompidou, c'est une histoire depuis le départ. Parce que quand j'ai créé, en fait, le MUMO, donc en 2011, à 2 mois d'intervalle, est sorti le Pompidou Mobile, donc qui était un grand projet d'envergure pour se poser dans une ville et présenter la collection du Centre Pompidou. Et ce projet donc s'est arrêté, puisque je pense que s'ils avaient envoyé la collection du Centre Pompidou dans un musée local, ça aurait été le même effet, parce qu'ils n'avaient pas réussi à toucher des publics différents. Et en fait, nous, c'est notre force au MUMO, c'est ce maillage territorial. Et donc, quelques années plus tard, changement de direction aussi, ils sont venus nous voir en nous disant « Voilà, ça fait plusieurs années qu'on vous observe, on voit que votre projet... entre guillemets, il tient la route. Et surtout, votre force, c'est le maillage territorial. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on met autour de la table tous les acteurs du territoire. Et c'est vrai que c'est dur parfois pour les administrations de travailler entre elles. Là, ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, on est dans des changements, on est beaucoup plus agile. Mais pour des grandes institutions, ça reste quand même très en silo. Voilà. Et la force du MUMO, elle est là. Et donc, on a décidé ensemble de construire ce MUMO X100 Pompidou, donc qui a pour vocation de faire circuler exclusivement la collection du centre. Il a été créé par l'architecte Isabelle Hérault et Cringe de Conning, l'artiste. Alors lui, c'est un white cube, mais c'est un white cube qui est réussi parce que avec ses couleurs sur les flancs du camion, il y a quand même un côté chaleureux. Et en fait, on se rend compte sur les territoires que les publics sont très flattés, touchés de pouvoir venir voir des œuvres d'une institution parisienne, de la collection du Centre Pompidou. C'est quand même un label. Le Centre Pompidou, c'est quand même la plus grande collection d'Europe, et vraiment nos publics sont reconnaissants de ça, et en même temps ça fait partie du service public, hein. C'est pas une collection parisienne, c'est une collection nationale, donc voilà, les Français sont très contents d'accueillir les œuvres du Centre Pompidou. Et on a d'autres projets d'ailleurs avec une autre grande institution, avec le musée d'Orsay. On est sur le point de construire un nouveau camion pour le musée d'Orsay. Donc là, je pense encore une grande fierté, je pense, pour les Français de pouvoir accueillir des œuvres impressionnistes sur leur territoire.
C'est génial. Justement, je voulais vous poser la question des nouveaux projets. Donc déjà, là, celui-ci semble vraiment très inspirant. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Là, on a été beaucoup sur le territoire français. Je ne sais pas si vous avez... Peut-être si vous êtes en contact avec des initiatives similaires au niveau international, en termes d'inspiration pour la communauté muséale. Qu'est-ce que...
Alors, bien sûr.
Vous auriez envie de partager.
Alors, d'abord, on a fait 2 années d'expérimentation avec la Tate. Donc, on a prêté notre camion designé par Nathalie Crasset, qui fait circuler collection des fracs. On l'a prêté pendant 3 mois, 2 années consécutives à la Tate parce que eux voulaient construire leur propre MUMO. Ça a été une expérience incroyable, très enrichissante. On a transporté des Turner, Damien Hirst, Liechtenstein. Ils ont vraiment joué le jeu avec cet enjeu de conservation et de sécurité là, des œuvres. Là, ils sont sur une phase de recherche de financement. Donc, j'espère pour eux, parce que les temps sont durs, que ça va se concrétiser. En tout cas, on a vu... le même impact de ce qu'on peut voir en France, c'est-à-dire ça suscite un grand intérêt sur les territoires, pour les scolaires, qui ramènent leurs parents. On a vraiment, les échanges sur les expériences étaient similaires. Avec le MUMO originel, on est allé en Afrique, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. C'était des super échanges. C'était important pour moi au départ de le partager aussi avec différents pays. Et surtout, quand vous faites un musée comme ça dans un container, vous avez envie qu'il voyage. Donc ça a été de très belles expériences. On construit actuellement, alors là on diversifie contenu, on construit actuellement un cinémobile. Donc c'est un cinéma dans un camion, donc un camion qui va se transformer en petite salle de cinéma, 72 places, c'est en partenariat avec Canal+. On s'est rendu compte et on a eu des échanges, puisque vous parliez d'expériences similaires. En Virginie, en fait, dans les années 50, il y avait 4 camions qui circulaient comme ça pour transporter les œuvres et aller à la rencontre des publics sur le territoire, dans leur état, vaste état. Et on a échangé dernièrement avec eux parce que le projet s'était arrêté et ils l'ont repris il y a 4 ans. Donc c'était une volonté très forte, une volonté politique forte de l'État de recréer en fait cette itinérance et d'aller à la rencontre des publics, parce qu'on voit bien en fait aujourd'hui la nécessité du musée de se remettre en question pour justement aller à la rencontre de nouveaux publics. Moi je le redis, le seuil du musée, c'est impressionnant. S'il n'y a pas quelqu'un qui vous prend la main, qui vous dit « Allez, on va aller voir », on n'y va pas. C'est pas inné, en fait, d'aller au musée ou dans une galerie. Moi, je l'ai vécu. Voilà, si on ne m'avait pas introduit ou initié à ce monde, c'est un monde quand même qui est très fermé. Alors aujourd'hui, de toute manière, ça fait partie des politiques publiques. Hein. On voit la ministre sort le plan ruralité, justement, pour que les institutions aillent à la rencontre des gens dans les zones rurales. On voit aussi que les musées font de plus en plus d'initiatives pour attirer de nouveaux publics, aussi bien avec les réseaux sociaux, voilà, avec tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Après, moi, je pense que la force du MUMO, c'est la rencontre avec l'œuvre. Parce qu'il y a plein de projets numériques, mais on ne remplacera jamais la rencontre avec une œuvre d'art. Moi, c'est ma conviction. Voilà. On peut, je dirais, donner l'envie d'aller au musée via le numérique, mais la rencontre avec l'œuvre, ça reste un moment, je pense, important. Et le MUMO a réussi à créer cette rencontre. C'est un événement quand il arrive comme ça sur le territoire.
Génial, merci beaucoup. J'ai quelques petites questions bonus qu'on a l'habitude de poser en fin d'épisode. Et justement, peut-être nous parler d'un musée ou d'une exposition qui vous a particulièrement marqué, peut-être ces derniers temps, ou dans votre parcours, vous nous avez parlé de cette galerie, vous avez parlé de Louise Bourgeois, ouais. Peut-être, je ne sais pas,
alors,
récemment.
Alors, une expo qui m'a marqué, alors plus personnellement, donc, c'était une exposition au Centre Pompidou. Donc de Louise Bourgeois, c'était il y a longtemps, hein, c'est une vingtaine d'années, et elle avait présenté ses Cells. Et vraiment, j'ai été très émue, j'ai été touchée, bouleversée, j'ai même pleuré. J'ai jamais ensuite retrouvé cette sensation. Et dernièrement, une exposition que j'ai vu, que j'ai aimé, alors je vais beaucoup parler du Centre Pompidou, l'exposition des surréalistes, vraiment qui a à voir, et une exposition à l'international, James Turrell. Moi j'aime beaucoup James Turrell comme artiste, et quand il avait exposé au LACMA à Los Angeles, c'était vraiment une très belle rétrospective. La Biennale de Venise, j'ai adoré le Christophe Bechel qui a pris possession de la Fondation Prada, voilà, avec son installation. Maintenant, moi, j'ai l'art un peu dans la peau, donc quand je voyage, je vais voir des expositions. À Paris, j'essaie aussi de voir un maximum d'expositions. Voilà, mes coups de cœur.
Et peut-être une chanson que vous aimez écouter, peut-être dans un musée ou une expo, peut-être un livre aussi, ouais, nous recommander.
Oui. Alors, au MUMO, on a fait des visites méditatives, et justement, avant en fait de rentrer dans l'exposition, vous aviez un casque et vous écoutiez une musique qui avait été créée par l'IRCAM. Ça, je trouve que c'est intéressant, le lien entre l'art et les arts plastiques, la musique et les arts plastiques. Après, une musique, en ce moment, j'écoute beaucoup Lou Reed, Just a Perfect Day, voilà. voilà, mais j'écoute aussi Taylor Swift, hein, je reste jeune avec mes enfants, voilà. Et un livre, L'art de la joie. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai beaucoup. Alors, un livre aussi plus philosophique, c'est Foucault, Le courage de la vérité. Voilà, ça, c'est des choses qui. Gaston Bachelard aussi. Je suis une rêveuse, donc forcément, la poétique de la rêverie, ça résonne en moi. Mais le Foucault, d'ailleurs, j'ai plus le temps parce que maintenant j'ai des enfants, mais j'aimais avant aller au Collège de France, écouter aussi bien des artistes, puisqu'ils avaient invité Daniel Buren, Amsel Kiefer, mais aussi des philosophes. J'ai plus le temps maintenant, mais peut-être que ça reviendra.
Pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci d'avoir répondu à nos questions et nous avoir fait découvrir ce magnifique projet.
Merci.
Et évidemment, ce podcast sera diffusé sur toutes les plateformes d'écoute. À très bientôt. N'oubliez pas d'aller sur notre site icom.museum pour écouter d'autres épisodes et découvrir d'autres contenus et initiatives dans le monde muséal.